Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Oui, Patrick Coste, bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, nous sommes à nouveau à l'antenne pour parler de l'enseignement en France, bien entendu. Et qui dit enseignement, dit évaluation de nos jeunes, de nos enfants, de nos étudiants, de nos lycéens, collégiens, etc. C'est un problème, l'évaluation, c'est pas facile.
Alors, je vais un peu élargir un peu le sujet par rapport à l'évaluation des enfants. Parce que dans le système éducatif, il y a l'évaluation des enfants et des étudiants, bien sûr, qui a ses problématiques propres. Mais il y a l'évaluation des enseignants, qui est aussi un sujet. Et puis, il y a l'évaluation du système lui-même. Comment il se pilote avec des évaluations. Et il se trouve qu'il y a un dénominateur commun, une cohérence systémique, en quelque sorte, entre la façon dont, aujourd'hui, on conçoit l'évaluation.
Alors, les évaluations des enseignants, si vous voulez bien, on en parlera la semaine prochaine.
D'accord. Hein? D'accord. Voilà. Alors, sur l'évaluation des élèves, il y a une organisation d'évaluation nationale. Alors, il faut que je plante le décor, que j'explique. Il y en a floraison de ces évaluations nationales, c'est-à-dire que vous en avez dans le premier degré, CE2, en CM2, et puis ensuite, vous allez en avoir en sixième, vous allez en avoir... Et pratiquement, à tous les niveaux. Alors, il faut savoir, pour comprendre, à quoi ça sert. Alors, il y a l'évaluation qui permet, l'évaluation nationale, de situer chaque élève, et parce qu'on a une stratégie rationalisée de l'évaluation, en situant chaque élève, ça permet de développer ce que l'on appelle dans notre jargon une pédagogie différenciée, c'est-à-dire donner à chacun, selon dont il a besoin, en fonction de l'évaluation qui a été faite. Ce que cela induit au niveau des pratiques, ça au moins l'ambition, alors il faut peut-être ensuite l'apprécier de façon critique, mais ça a pour ambition, entre l'évaluation qui est effectuée, de mettre en vis-à-vis un certain nombre de techniques pédagogiques qui elles-mêmes sont rationalisées. Et l'enseignant, à ce moment-là, dans le cadre de sa pédagogie différenciée, dispose d'un certain nombre de techniques qui lui sont suggérées entre les items de l'évaluation tels qu'ils ressortent et les techniques pédagogiques qu'il peut développer.
La pédagogie différenciée, c'est ça. Ce sont des techniques pédagogiques qui s'appliquent aux enfants suivant leur niveau.
On considère que tout le monde n'avance pas de la même manière, qu'il y a une hétérogénéité des groupes, et donc l'évaluation permet de différencier les réponses sur tous les cas particuliers. Comme on est de plus en plus, de toute façon, dans des groupes qui sont constitués de cas particuliers, la pédagogie différenciée devient en quelque sorte la colonne vertébrale elle-même de la pédagogie. Bon. D'où cet outil qui est mis à disposition. Ça, c'est la présentation de la situation. Bon. Alors maintenant, en ce qui concerne les enseignants, en particulier dans le premier degré, ils ont l'impression que cette quasi-rationalisation technique de la pédagogie fait d'eux, en tant que pédagogues, des sortes d'ouvriers spécialisés de la pédagogie, où ils ont l'impression d'être en quelque sorte enfermés dans des stratégies pédagogique qui leur empêche d'être dans une expression de liberté pédagogique où ils sont dans la construction eux-mêmes de leur démarche. Ça n'a l'air de rien, mais dans la représentation que les professeurs d'école ont de leur métier, ils ont l'impression d'avoir perdu
une liberté
et une expression.
En même temps, c'est une aide pour eux.
Alors, ça devrait l'être. Hein, C'est quand même le but de l'opération. Maintenant, rentrons davantage dans le sujet pour voir si véritablement ça fonctionne. Je dois dire très, très rapidement en termes de témoignage, puisque j'ai été sur le premier degré, sur le deuxième degré, et que j'ai vu la série finalement des évaluations sur plusieurs niveaux, qu'il y a des bons élèves. Là, je parle des professeurs bons élèves, qui utilisent à souhait ces techniques pédagogiques, qui suivent les préconisations techniques, mais il y a beaucoup d'enseignants qui ne les investissent pas. Et dans mon impression, il serait plutôt majoritaire. Alors pourquoi on est dans cette situation? Alors, Monique, vous avez été enseignante, hein, une véritable évaluation. Ce n'est pas le résultat que va vous donner un algorithme entre acquis et pas acquis par rapport à un objectif. On rentre véritablement dans l'évaluation quand on comprend comment l'élève fait une erreur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment lui, il fait sa vérité en quelque sorte, mais qui n'est pas bonne. Bon. Et à partir de là, on est dans une évaluation de type formative et on est véritablement là dans l'acte pédagogique qui est dans la compréhension du processus dans lequel l'élève se trouve. Je vous donne une illustration sur les évaluations de sixième. On rentre les données et on ressort avec acquis, pas acquis. Bon. Donc il y a comme une sorte d'incarnation de l'évaluation qui n'est pas prise avec cette technique-là. Alors que font les enseignants? Professeurs de français, hein. On connaît bien, puisque mon épouse l'est, donc je l'ai bien vu travailler. Ils préfèrent donner des petits exercices de repérage, et finalement, ça leur permet davantage d'appropriation par rapport à l'évaluation que ce cadre-là.
Mais le résultat peut être bon.
De l'élève?
Oui.
Alors le résultat peut... Si de toute façon... J'aurais presque envie de dire que les bons élèves, ce ne sont pas ceux-là qui posent le problème. Hein. C'est là où c'est la difficulté, c'est quand il y a des résistances à apprendre. Bon. Et c'est là qu'il faut rentrer véritablement dans la relation.
Pouvez-vous donner un exemple à nos auditeurs?
Je ne sais pas si par exemple, il y a, prenons de l'orthographe, s'il y a quelque chose qui ressort de l'évaluation de l'orthographe, s'il y a eu zéro faute, ça ne pose pas de problème. Hein. Je veux dire, la copie est lisse, d'une certaine façon. Si inversement, il y a un problème sur les ponctuations ou sur les problèmes sur les conjugaisons ou les accords, c'est un niveau de problème par rapport à l'acquisition de l'orthographe. Si c'est un redoublement des consonnes, c'est un autre sujet. Bon. Et donc, pour que l'enseignant véritablement fasse cette identification de l'orthographe, il faut qu'il soit dans quelque chose qui le prenne dans la relation avec l'élève. Donc, le caractère rationnel et technique de l'évaluation ne peut pas tout à cet égard. Il y a quelque chose qui n'est plus habité. Voilà. Et donc, d'où les enseignants qui s'appuient davantage quelquefois sur leurs compétences empiriques vis-à-vis de l'évaluation, plutôt que de passer par ces rationalités. Ça, c'est un objectif de l'évaluation, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième objectif de l'évaluation, ce sont... Vous avez c'est dans des outils informatiques. Donc, vous êtes susceptible de regarder les résultats du collège qui est du côté de Saint-Cernin ou celui qui est du côté de Saint-Cyprien. Bon. Et donc, de comparer des résultats. Et ce qui permet, à une échelle territoriale, de pouvoir faire des pilotages avec des conseils qui peuvent être donnés en fonction de comparaisons que l'on peut faire de cette évaluation sur le territoire. Bon, le problème est, c'est posé comme étant une des finalités, hein, de ces évaluations nationales, y compris sur la répartition des moyens. Parce que là où les résultats sont moins bons, on serait susceptible de donner des réponses. Le problème, c'est que l'accompagnement pédagogique, par exemple des corps d'inspection, fait que ça va être très difficile parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour faire l'accompagnement. Donc ce qui est avancé comme argument trouve une limite, de toute façon, par rapport à la ressource humaine visible de ces évaluations. Et puis toujours dans...
Il faut... cette évaluation.
Tout à fait.
On n'a pas beaucoup de temps, hein, Patrick.
Tout à fait. Ça met les enseignants, voilà. Ça met les enseignants expliqués de façon diplomatique et bienveillante. Parce que de toute façon, même si traduit par ces évaluations et nuancé en quelque sorte, il n'empêche que ensuite ils sont aussi dans leur propre représentation par rapport à ça. Ouais. Donc les enseignants aussi dans la manière dont ils les expliquent.
Oui. Du temps. Et puis de la diplomatie.
Il y a des enseignants qui sont des il y a toutes sortes d'évaluations qui sont à l'œuvre dans le système.
Avec les inspecteurs qui passent.
Et tout à fait.
Et là, c'est assez stressant malgré tout.
Absolument. Et j'en fais un sujet d'ailleurs dans mon livre, hein, sur l'évaluation des enseignants, parce qu'il y a une évolution aussi de cette question de l'évaluation.
Bon, il n'y a pas beaucoup d'inspections dans certains... En primaire, il y en a deux, peut-être, non ?
Ben,
peut-être qu'on n'a pas trop le temps.
Dans le premier degré, les évaluations sont plus rapprochées que dans le second degré.
Dans le second degré,
à l'heure actuelle, l'inspecteur passe tous les 7 ans 3 fois. Et après, c'est terminé.
D'accord. Hein,
il y a 3 visites de carrière.
Ouais.
Je ne devrais pas dire visite, hein, parce qu'ils n'aiment pas ça, les inspecteurs. On n'est pas en visite touristique. Mais le vocable consacré maintenant, ça n'est plus une inspection, c'est un accompagnement professionnel.
C'est sympathique.
Voilà, dans l'éducation nationale, on a le sens des formules.
Oui.
Là, on a une inventivité sans fin.
Tout à fait. Bon, écoutez, Patrick Host, un grand merci. La semaine prochaine, nous parlerons des formations. Formation des enseignants, évidemment, beaucoup à dire, puisqu'on a besoin d'enseignants, et on va le dire à la radio, voilà, des enseignants, il faut le rappeler.
Un très beau métier. Ça, c'est vrai.
Merci.